Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Iman Benaoun-Fleury, qui est directrice générale de Human Skills. Et nous allons parler de l'Observatoire des transformations que vient de publier son entreprise. Nous y parlons des transformations en cours, mais également de l'avenir, et c'est absolument passionnant. Bien entendu, nous y parlons beaucoup d'intelligence artificielle, mais j'étais très loin d'imaginer à quel point cette technologie pouvait impacter notre quotidien en tant que professionnel, mais également, par exemple, les politiques RSE des entreprises. Si vous voulez avoir une idée de ce à quoi ressemblera demain le monde de l'entreprise, cet entretien est pour vous. Bonne écoute. Bonjour Iman.
Bonjour.
Alors Iman, je suis très content de vous recevoir parce que les auditeurs et les auditrices de Happy Work ne le savent peut-être pas, mais vous êtes une très grande spécialiste des ressources humaines et du recrutement. Et moi-même, quand j'étais salarié, j'ai croisé votre chemin il y a maintenant quelques années. Ça ne nous rajeunit pas. Mais ce n'est pas à ce titre que je vous reçois, Iman. Vous êtes directrice générale de Human Skills. Alors le groupe Human Skills, c'est 8 marques, près de 600 experts spécialisés dans l'accompagnement des transformations. Alors que ce soit sur les nouvelles organisations digitales, la data IA, les RH, les RSE, et vous avez lancé l'Observatoire des transformations et vous révélez 5 grandes tendances d'entreprise. Et c'est pour cela que je voulais parler avec vous, parce qu'il y a plein de tendances qui me fascinent, et notamment une, vous parlez dans cet observatoire beaucoup de résilience. Alors pourquoi cette tendance autour de la résilience ?
Alors, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une accélération dans les transformations. Et il y a plusieurs transformations qui s'opèrent en même temps. Il y a la transformation digitale qui n'est pas terminée. Il y a une transformation qui est liée à l'impact de l'IA, de la data sur les organisations. Il y a les RH qui se transforment en même temps parce qu'elles doivent mettre en place, accueillir ces nouvelles organisations, les penser, les réfléchir, les anticiper. Et tout ça, pour ça, elles ont besoin de s'outiller et de se structurer également. Et puis, on top, il y a les injonctions liées à l'environnement, l'écologie, l'entreprise qui doit avoir un rôle sociétal. Et donc, ça met les salariés, ça met les collaborateurs, ça met les dirigeants dans un besoin d'adaptation, d'agilité qui n'a jamais été perçu auparavant. Mais et donc, toutes ces mutations impactent, je trouve, le besoin de de lâcher prise, de ne pas s'accrocher à des choses. Et donc, il y a ce que nous, on a appelé la résilience ici, c'est vraiment, pas te laisser porter, mais être capable d'accueillir tout ça et de ne pas se mettre en situation de stress et de tension et de pression.
Mais c'est exactement ce que j'allais vous dire, Iman, parce que vous citez dans votre observatoire une étude de Deloitte qui dit que 80% des dirigeants d'entreprise estiment que la résilience et l'adaptabilité des employés sont des compétences essentielles. Alors, je peux avoir un petit côté parano de temps en temps, mais pour moi, la résilience, c'est quelque chose que l'on met en action quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il faut, par exemple, avoir peur de l'IA ? Ça, ce sont des grands débats en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'IA et qui sont terrifiés. Est-ce que il faut faire preuve de résilience parce qu'on a de quoi flipper, comme on dit ?
Moi, je trouve que je le prends un peu autrement. Le changement, c'est peur.
Oui, c'est
le
vrai.
Changement, c'est peur parce qu'il faut lâcher prise face au changement. Il faut accueillir le changement. Et c'est pas une compétence facile de lâcher prise par rapport à ça et de s'ouvrir au changement. On voit beaucoup de résistance, beaucoup de freins. Et ça rend les choses douloureuses. Alors, dans des périodes stables, les gens qui ont une forte résistance au changement ne sont pas autant sollicités qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Le changement est partout. Les mutations sont extrêmement rapides et fortes. Et donc, les gens qui n'ont pas développé cette forme, entre guillemets, cette nouvelle compétence ou cette forme d'accueil du changement et qui arrivent à, entre guillemets, un peu se dire « Ok, ça me plaît pas, c'est pas agréable, ça me met en difficulté, mais j'ai pas le choix, donc comment est-ce que je vais faire face ?» Et c'est ça qui est au cœur de ce sujet pour moi. Et c'est ça que les entreprises doivent accompagner auprès de leurs collaborateurs. Parce que sinon, ces transformations, elles sont inéluctables, elles se superposent et elles s'empilent les unes sur les autres. Et je pense que si on n'accompagne pas les collaborateurs, les équipes, pour les aider à avoir, entre guillemets, avoir des repères, se poser, s'ancrer et découvrir, enfin, les aider à prendre vraiment conscience des sujets et les accompagner dans la maîtrise, parce que le changement, c'est perdre la maîtrise. C'est, on connaît quelque chose, on le gère bien, on sait le faire. Ah, il y a quelque chose de nouveau, on le connaît pas, on sait pas faire, on est en difficulté. Donc, donner un maximum d'accompagnement, de formation, de réassurance, pour faire que les gens puissent se mettre en posture et développer la résilience.
Bien sûr. Alors,
c'est mon point de vue, c'est ce qu'on voit dans notre entreprise, c'est ce qu'on voit aussi dans les entreprises qu'on accompagne avec nos collaborateurs.
Mais d'ailleurs, les changements sont anxiogènes depuis qu'on est tout bébé. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la tête que fait un bébé de 3 ans si on lui enlève son doudou avant de dormir. On a peur du changement, c'est naturel. Ouais. Et l'intelligence artificielle, vous en parlez énormément et j'aimerais bien... mettre en avant une étude que vous citez de Goldman Sachs, qui dit que 2/3 des emplois actuels sont exposés à un certain degré d'automatisation et que l'IA générative pourrait remplacer jusqu'à 1/4 du travail actuel. Et j'en suis la preuve vivante, parce que grâce à l'IA, je suis passé à la semaine de 4 jours. Croyez pas que l'IA, les gens ont peur de se faire remplacer au lieu de voir comment est-ce que ça pourrait les servir pour être plus productif, voire peut-être dans les années qui viennent, envisager la semaine de 4 jours?
Moi, je pense qu'il y a deux manières d'aborder tous les changements et toutes les transformations. Là, ce changement-là, l'impact qu'il a, il est inédit parce que toutes les automatisations, la digitalisation, etc., ça a supprimé des tâches répétitives, chronophages, mais manuel pour beaucoup. Ça veut dire que la comptabilité, le fait qu'on puisse avoir des logiciels de comptabilité, importer les factures automatiquement, ça a rendu le job du comptable, de l'analyste comptable, beaucoup plus agréable, parce qu'il rentre vraiment dans l'analyse. Un ouvrier sur une machine, la chaîne de production lui a évité de faire un certain nombre de gestes fatigants, épuisants, etc., répétitifs. Mais on a eu moins d'ouvriers et puis on a eu moins de besoins de petites mains comptables. En revanche, là, ça touche des gens dont le job est intellectuel, donc ce qu'on a appelé l'école blanche. Et c'est sur ces jobs-là qu'intervient fortement l'IA et l'amélioration de la productivité. Elle est sur des sujets qui sont des sujets plutôt intellectuels. Et on n'a jamais vécu ça, et c'est la première fois qu'on voit ça. Et donc, du coup, c'est légitime que tous les gens dans les métiers du service et du conseil et de l'intellectuel, entre guillemets, se posent énormément de questions. Et moi, je dis, il y a deux grandes manières d'aborder le sujet. C'est de se dire, c'est dangereux, c'est pas bien, je vais me battre contre. Et à mon avis, là, ce combat-là, il est perdu. Ça va m'impacter. Mais qu'est-ce que ça va impacter chez moi? Qu'est-ce que ça ne va pas impacter? Et comment je développe les compétences qui ne seront pas impactées par l'IA? Parce que c'est celles-là qui seront demain des compétences clés. Et pour mon grand plaisir, moi qui suis une virulente adepte du développement personnel, des soft skills et de la créativité, de l'imagination, enfin pour moi ce sont vraiment des qualités des qualités ou des compétences qu'on ne travaille pas assez, qu'on ne développe pas assez, qu'on ne valorise pas assez. Et ben ce sont ces compétences-là qui vont être au cœur du sujet demain. Et donc et je pense qu'elles vont être servies et aidées par les IA. Les IA vont entre guillemets mécaniquement prendre un certain nombre de sujets, faciliter un certain nombre de sujets qui sont pas toujours agréables, compiler de la donnée, construire des histogrammes pour les gens qui font des études, etc. C'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que dit la donnée, comment je la fais parler, comment je la regarde, comment je l'analyse, qu'est-ce que j'en ressors, etc. C'est ça la valeur ajoutée, la vraie valeur ajoutée d'une étude, par exemple. Et donc, les gens qui vont se dire, ok, je m'y intéresse, je teste tout, je regarde, j'apprends, j'utilise au maximum et je vois ce que ça m'apporte et je vois ce que moi j'apporte de différent aidé par une IA et qu'est-ce que je dois développer pour garder ma légitimité, ma force, ma puissance et continuer à être entre guillemets indispensable à l'entreprise. Et oui, la productivité va s'améliorer, ça s'améliore déjà parce qu'on parle de l'IA depuis l'IA générative, mais depuis les années 40, 50. Des intelligences artificielles, la big data, le deep learning, etc. Tout ça a déjà énormément permis de faire des choses qui étaient impossibles à faire auparavant. Analyser des données comme on n'a jamais pu faire. Tout ce qui est retargeting, c'est grâce à l'IA. Tout ce qui est lié aux algorithmes, c'est l'IA. Donc, tout ça n'était pas possible quand on n'avait pas suffisamment de puissance de calcul, d'analyse, d'outils qui permettaient de faire tout ça. Elle était déjà là. Maintenant, elle est accessible au plus grand nombre. Il faut que le plus grand nombre s'approprie ces outils, ces sujets, et puis surtout fasse une analyse de qu'est-ce que elle ne peut pas faire. Où est-ce que je suis plus performant, sur quel registre, sur quelle méthode, c'est moi qui apporte la valeur ajoutée. Et elle m'aide, l'IA m'aide à aller plus vite, à faire mieux, à tester plus de choses dans la création graphique, la création digitale, etc. Moi, j'ai vu des choses se faire avec l'IA, mais sans l'homme pour piloter l'IA, c'est pourri. Résultat est pourri. Donc, on voit bien qu'elle permet des choses, elle évite d'aller en studio, elle évite de construire des décors. Quand vous voulez faire des shootings en situation d'automobile, etc., ça coûte une fortune. Mais là, ce qu'on veut avoir comme résultat de shooting, ce qu'on imagine, comment on le veut, etc., c'est toujours l'humain qui va dire à l'IA ce qu'il veut, comment il le veut, pourquoi il le veut, et non, c'est pas ça, et remodifie, et travaille-le comme ça, etc. Et au final, on peut avoir un résultat mais fabuleux, mais c'est toujours drivé par l'humain. Et moi, je me dis que pour ceux qui ont peur, pour ceux qui sont inquiets par rapport à ça, la vraie opportunité, c'est de tester, c'est de jouer, c'est de et de voir la différence qu'on apporte soi en tant qu'être humain à l'utilisation de ces IA.
Alors, Imane, justement, je rebondis sur ce que vous dites, parce qu'il y a toute une partie dans votre observatoire qui parle de la décentralisation de la connaissance. Ma question est assez, assez simple et très complexe. Est-ce que du fait de l'IA pour un certain nombre de métiers, finalement, le salarié de demain ne sera plus un spécialiste, mais au contraire, ce sont les plus généralistes, celles et ceux qui seront capables de piloter l'IA avec un regard peut-être un peu plus élevé que purement opérationnel, qui vont entre guillemets gagner. Est-ce qu'on passe d'un monde de spécialistes à un monde de généralistes malins dans l'avenir ?
J'aimerais bien, mais je suis pas sûre de ça, Gaël. Pour deux raisons. Pour arriver à construire ces outils, à les faire tourner, etc., il faudra de plus en plus de spécialistes, et ça, c'est un job de spécialiste. Mmh. Et dans l'entreprise, quand je parle de cette décentralisation, je parle de donner. Enfin, hier, on a toujours dit, vous savez, dans le pouvoir, c'est l'information.
Bien sûr.
Le pouvoir, c'est la connaissance. C'est l'accès à l'information de qualité, pointue, etc., qui permet la prise de décision.
Voilà. Et donc, tout le monde a le pouvoir.
Demain,
là,
ça n'existe plus.
Oui.
Pardon ?
Donc, avec l'IA, tout le monde a le pouvoir.
Voilà. Le pouvoir est décentralisé, l'organisation est décentralisée, mais ce qui change, c'est que plus personne ne peut rien faire seul. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes au product, vous avez besoin de data, vous avez besoin pour améliorer votre produit, pour améliorer votre solution, de mesurer des infos. Donc, vous travaillez avec des analystes, vous travaillez avec des UX, etc. Et c'est la collaboration. Le côté silo vertical est cassé et c'est la collaboration la clé de succès. Et donc, je ne pense pas à un monde de généralistes, mais je pense à un monde où que les généralistes prennent le pouvoir et qu'il faudra être... Au niveau management, c'est indéniable, mais au niveau du pilotage des projets, de l'accompagnement des sujets, c'est le collectif qui va devenir clé. Ça veut dire que c'est plein d'experts qui vont travailler ensemble et qui vont sortir de leur zone de confort pour s'intéresser au métier du copain d'à côté et voir comment on peut ensemble surperformer. Quoi.
Alors, je vais poser une question.
Je crois vraiment ça.
Alors, maintenant, Imane, je vais vous poser une question de vieux que je suis. Et avec tout le respect et la bonne éducation que ma maman m'a donnée, je ne voudrais pas vous manquer de respect, mais nous avons tous les deux commencé à travailler au siècle dernier, et tous les deux, nous avons connu la révolution Internet. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que dans certaines réactions, que ce soit des journalistes ou même des salariés face à l'IA, on retrouve certaines craintes qu'il y avait à la fin des années 90 avec l'Internet qui apparaissait comme « ça va tuer l'information, ça va tuer le travail de certaines personnes ». J'ai l'impression qu'on est revenu finalement... un peu 25 ans en arrière sur, que dis-je 25 ans, presque 30, sur les craintes et que finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le monde sans Internet, alors il y a du bon et du moins bon, mais ça sera comme l'IA, il y aura du bon et du moins bon, ça dépend ce qu'on en fait. Finalement, je dis toujours, quand on plante un marteau et qu'on se tape sur le doigt avec le marteau pour planter un clou, la personne qui accuse le marteau est vraiment idiote. Et finalement, c'est l'utilisateur qui fera de l'IA quelque chose de bien ou de pas bien.
Alors, je suis d'accord sur le fond. On retrouve effectivement les mêmes relents de peur, les mêmes inquiétudes, etc. Ça va tuer l'emploi, c'était le cas aussi du digital. Ça va tuer le commerce, ça va tuer le commerce physique, ça va tuer, etc. Ça, on voit bien que le monde n'est pas noir et blanc et qu'il y a beaucoup de contraintes et beaucoup de choses auxquelles on ne pensait pas à ce moment-là qui ont émergé depuis et que par exemple, sur le monde du commerce, le digital a été vraiment a permis d'améliorer l'expérience client, bien mais sûr. Le point de vente est devenu encore plus central, je trouve. En revanche, il faut le regarder de manière différente. Oui, ça va être un facilitateur. Oui, ça va améliorer la productivité. Oui, ça va permettre de faire plus de choses qu'on voit dans la santé. J'écoutais ce matin une scientifique sur France Inter qui parlait de la recherche scientifique qu'elle fait sur l'immunothérapie et de la manière dont les IA les aident à faire des choses qu'ils n'auraient jamais pensé qu'ils pourraient faire. Donc c'est fabulé. Et en même temps, il y a quand même cette grande crainte de la manipulation des masses par l'IA. Et ça, on le voit de plus en plus au niveau de l'information, au niveau de la politique, au niveau etc. Et je pense que si le grand public, tout le monde, ne s'approprie pas cet outil, ne l'analyse pas de façon critique, ne comprend pas. Voilà, on peut servir des causes absolument dangereuses et on peut abêtir les gens. Moi, c'est une de mes craintes. J'ai lu le livre de Asma Mala qui m'a vraiment terrifiée. Du coup, c'est vraiment. Et je me dis que il est urgent d'éduquer, d'aider les gens à prendre possession de ces outils pour ne pas que les outils prennent possession des gens. Oui, mais vraiment, c'est pas la science-fiction, hein, c'est vraiment, ça facilite tellement la manipulation.
Mais vous savez, Imane,
si les gamins ne sont pas éduqués, ça va être dramatique.
Bien sûr, mais vous savez, Imane, c'est si on regarde un petit peu l'histoire, finalement, c'est l'outil qui est différent, mais l'être humain a toujours essayé de manipuler. Il suffit de regarder les ministères de la propagande au grand temps du stalinisme, ils n'avaient pas l'IA. Ils n'étaient pas mauvais pour manipuler les foules quand même. Donc fondamentalement, ce n'est pas l'outil le problème, c'est la façon dont on l'utilise. Et ce qui m'a vraiment là interpellé, par contre, dans votre observatoire, c'est que vous parlez de RSE et numérique. Et là, je dois bien vous avouer que je ne voyais pas le rapport. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Oui, c'est une transformation également. Et c'est une transformation qui impacte dans ces grandes tendances. Cette transformation RSE, elle impacte énormément les entreprises. Et nous, ce qu'on observe, c'est que dans toutes ces transformations, le digital est au service de cette transformation RSE. Le digital, l'IA vont aider à améliorer les empreintes carbone des projets digitaux, améliorer... ça permet une prise de conscience et ça donne des outils qui permettent de continuer à développer de nouveaux projets tout en étant le plus vertueux possible grâce à ces nouveaux outils, grâce à la technologie, grâce... je fais parler dans notre étude une jeune femme qui s'appelle Noura, qui a développé une application qui s'appelle Carbon Saver et qui mesure l'empreinte environnementale, des projets, elle, à l'origine, elle l'a fait sur des projets d'architecture d'intérieur. Et l'idée, c'est de faire l'éco-conception de projets d'architecture d'intérieur. Et de quand l'architecte décrit son projet dans l'application, ça lui donne des pistes d'amélioration avant qu'il crée son projet, avant qu'il travaille son chantier. Et nous, on est en train de prendre cette application et de la déployer sur les projets digitaux. Donc, l'idée étant que le chef de projet demain, ou le product owner, décrit son projet dans l'application, de manière cahier des charges. Hein, donc, il fait son cahier des charges, il le met dans l'application, et l'application lui dit, écoute, sur cette partie-là, si tu héberges tes images différemment, si tu fais ci, etc., tu peux faire baisser l'empreinte carbone de ton projet de 50%. Et donc, l'idée, c'est de faire de l'éco-conception de manière naturelle, facile, fluide, pour penser ça. Et donc, tout ça, c'est une des tendances qu'on voit. Par exemple, notre pôle data est très sollicité par des clients qui veulent être capables de mesurer l'empreinte carbone des différents projets sur lesquels ils travaillent pour voir comment faire baisser leur consommation et leur empreinte. Et c'est une tendance. Donc nous, quand on dit l'observatoire des tendances, il y a toutes ces grandes tendances, et bien il y a celle-là aussi, c'est les nouveaux outils au service de cette transformation de l'entreprise pour la rendre plus vertueuse et plus et qu'elle ait une empreinte moins forte sur la planète, quoi.
C'est super intéressant.
Alors, il n'y a pas un client avec lequel on parle qui n'a pas une préoccupation d'amélioration de son impact.
Bien
c'est
sûr.
Incroyable.
Alors, nous arrivons vers la fin de cet entretien, Imane, et je vais vous soumettre un conseil que je donne aux gens qui ont un peu peur de l'IA, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'IA, mais qui n'ont jamais fait joujou avec. Je trouve qu'il y a un côté ludique, et moi je donne toujours un conseil. Écoutez, si jamais vous préparez un week-end, je ne sais pas, on va dire, à Bandol, eh ben, tapez un prompt sur ChatGPT ou Bard, l'intelligence artificielle de Google, les deux ont une version gratuite, et dites, voilà, je vais passer 3 jours à Bandol, qu'est-ce que tu me conseilles de faire pendant ces 3 jours? Et c'est hallucinant. C'est littéralement hallucinant de voir à quel point l'IA est une aide et que tout dépend de ce qu'on lui demande. Est-ce que c'est un bon conseil pour les auditeurs et auditrices de Happy Work qui n'auraient jamais fait joujou avec une IA de faire ce genre de choses ou vous conseillez autre chose?
Je trouve que c'est un excellent conseil. J'ajouterais une chose, c'est que moi j'utilise, j'ai téléchargé sur mon téléphone une application qui s'appelle Perplexity. Et Perplexity a un intérêt, c'est d'avoir plusieurs IA dans l'application. Plusieurs IA génératives, les OpenAI, etc., etc. Mmh. En revanche, elle peut vous indiquer les sources.
Ah.
Et moi, j'ai envie de pousser des applications comme celle-là parce que c'est super d'avoir un beau contenu, des choses qui vous sont recommandées, etc. Moi, j'aime bien et je pense que c'est dans ce sens-là que j'ai envie de pousser. C'est super, mais d'où ça vient?
Bien
pourquoi
sûr.
Tu me dis ça? D'où tu le sors? Quel est ton... Voilà, j'ai montré ça à tous les jeunes que je côtoie autour de ma fille, de mes neveux, etc. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir, entre guillemets, un peu maîtriser le sujet et ne pas se faire embarquer dans n'importe comment. Mais c'est un super conseil. Utilisez l'IA pour des choses du quotidien et c'est petit à petit que vous verrez le potentiel et que, voilà.
Bah, écoutez, Imane, c'était extrêmement intéressant. Mille merci pour le temps que vous m'avez accordé. Je mettrai tous les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. Alors, je vais finir cet épisode comme je finis tous les épisodes de Happy Work, cher Imane. Avant toute chose, prenez soin de vous. À très bientôt, Imane.
Merci beaucoup, Gaël. Merci pour votre temps. Au revoir.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.